Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le grand plaisir d'accueillir le professeur Daniel Cohen, économiste et auteur à succès, on dirait même de best-seller, qui vient de faire paraître chez Albin Michel « La prospérité du vice, une introduction inquiète à l'économie », un ouvrage de près de 300 pages, 280 pages exactement, 19 euros. Daniel Cohen, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir pris sur votre temps pour nous rejoindre sur notre antenne. Cette nouvelle parution s'affirme déjà comme un grand succès de librairie, d'ailleurs dans le droit fil de vos précédentes parutions. Vous avez d'ailleurs été couronné par un prix lors de la parution de votre ouvrage qui s'appelait « Trois leçons ». C'est ça,
sur la société post-industrielle.
Sur la société post-industrielle et qui était paru, c'était mon doute, c'est paru chez Le Seuil, je crois,
au
si
Seuil,
je me rappelle
oui,
bien,
fait,
au Seuil.
Oui.
C'était paru en 2006 et vous avez été le lauréat de nombreux prix et en plus déclaré l'économiste de l'année en, si je me souviens bien, 1997.
Ouais.
Donc voilà, vous êtes un habitué des grands succès. Et certaines sources bien informées vous prédisent comme l'un des favoris du prochain prix Turgot, du meilleur livre d'économie financière, qui se tiendra au ministère de l'économie le 11 mars 2010. Heureux présage, en tout cas on le souhaite. Alors, votre style se reconnaît à la fois par sa concision, par le sens de la formule, il s'appuie bien entendu sur une très large culture et il s'associe à un grand talent pédagogique qui est absolument évident. Vous êtes donc, j'imagine, un auteur heureux. La question qu'on peut vous poser, est-ce que vous êtes aussi un économiste heureux au moment où beaucoup s'interrogent sur à quoi servent les économistes et plus généralement les experts? Est-ce que c'est une science dans laquelle le scientifique que vous êtes se reconnaît ou est-ce que vous avez quelques difficultés?
Heureux pour un économiste, honnêtement, ça, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Circonspect, inquiet, c'est d'ailleurs le sous-titre de mon livre, une introduction inquiète à l'économie davantage. Bon, dans les conditions où on parle aujourd'hui, c'est-à-dire à la fin de cette année 2009, un an après la grande crise financière déclenchée par la faillite de la banque Lehman, peut-être qu'on pourrait dire partiellement soulagé. Le pire était à craindre l'année dernière. On voyait les signes d'une répétition de la grande crise de 1929. Et au fond, ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette grande crise de 1929 ne s'est pas répétée, sans doute ne se répétera pas, en grande partie parce que les différentes autorités politiques, économiques du monde ont tiré les leçons de la crise de 1929, au fond. Ils ont été à l'école de tous les économistes qui ont expliqué les différentes raisons pour lesquelles 1929 a fini par devenir la grande tragédie qu'elle a été. Donc oui, pour un économiste, il y a tout de même l'idée que les leçons de l'histoire finissent par peser, en particulier grâce au travail des économistes.
D'accord, donc on n'est pas un économiste malheureux, mais voilà. Circonspect. Alors, on va en venir au cœur de votre sujet. Je voudrais quand même rappeler quelques éléments de votre parcours qui, à bien des égards, est assez exceptionnel. Vous êtes normalien, vous êtes agrégé de mathématiques, docteur en sciences économiques, agrégé de droit et de sciences économiques. Il semble que vous aimez aussi particulièrement l'histoire de l'économie. Et donc, je pense qu'on peut sans doute faire encore plus, mais difficilement mieux dans le parcours initial. Alors, vous êtes membre, en outre, donc, du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre. Vous êtes aussi proche de l'OCDE, si j'ai bien compris. Et vous enseignez, bien entendu, à l'École normale supérieure, ainsi que dans un certain nombre d'institutions prestigieuses. Alors, votre livre, comme le dit le quatrième de couverture, est un voyage. Un voyage, donc, dans l'histoire, où vous montrez comment l'économie façonne la société au fil du temps. C'est ça votre thèse centrale.
Oui, non, j'ai essayé effectivement de voir comment l'économie façonnait les peuples, les civilisations, et puis inversement, comment en retour aussi les lois de l'économie. Et c'est peut-être d'ailleurs cette réciproque qui m'intéresse plus que la première, parce que la première, bon, elle est d'une certaine façon un peu habituelle chez les économistes, d'affirmer le primat de l'économie sur tout le reste. Et, bon, je le rappelle ici et là, mais c'est plutôt le retour qui m'intéresse aussi beaucoup, de voir comment les lois souvent réputées inflexibles de l'économie, en réalité, ne le sont pas si inflexibles que ça. Elles se modifient beaucoup et se comprennent comme une loi acquise, en réalité, et très souvent d'ailleurs au moment où on l'énonce, se transforme, se renverse. Donc c'est un peu ce jeu que je suis au fil du temps pour essayer, on va dire, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, de planter au fond quelle a été la grande loi économique qui a pu prévaloir jusqu'au grand tournant du XVIIIe siècle et comprendre un peu en creux celle qui prévale aujourd'hui depuis et puis les nouvelles encore qui prévalent à l'heure de la mondialisation. Alors, pour aller très vite, en effet, dans le livre, je rappelle une loi qui avait, je crois, dans l'opinion publique, tendance à être discréditée, ce qu'on appelle la loi de Malthus, qui est pourtant longtemps d'ailleurs fixé, on va dire, l'horizon intellectuel des économistes qui se succèdent au XVIIIe et au XIXe siècle, et qui a retrouvé, je dirais, dans le corpus des économistes, a retrouvé toute sa place. Car les études, les enquêtes, les mesures qui ont pu être faites, en réalité, redonnent bien cette loi de Malthus toute la place que lui donnaient à la fin du XVIIIe siècle les économistes, Malthus en tête naturellement, mais aussi Ricardo, et puis plus tard, en réalité, Marx, y compris même s'il lui donne des traits et une forme différente. Or, cette loi de Malthus, que dit-elle? Elle dit une chose qui, pour un économiste, est totalement déconcertante, qui est que le revenu par habitant d'une civilisation, d'une région, d'une partie du monde, bon, peu importe le terme, ne peut pas croître. Elle ne peut pas croître parce que, et le raisonnement économique est très simple à comprendre, chaque fois qu'une civilisation, disons, trouve les moyens de s'enrichir, par exemple des techniques, des technologies nouvelles, alors immédiatement se déclenche une explosion démographique qui finit par faire en sorte que le nombre de têtes augmente plus vite que les capacités techniques de la civilisation dont on parle. Ce qui fait qu'une civilisation prospère, on va dire jusqu'au XVIIIe siècle, elle ne se caractérise pas par un revenu par habitant plus élevé qu'une autre, moins prospère, elle se caractérise par un nombre d'habitants, au fond, on va dire par une densité de population plus élevée que les voisins. Donc si on veut, d'un coup d'œil, et en passant outre, évidemment, toutes les subtilités de la géographie, de l'histoire, etc., apprécier le niveau de développement d'une civilisation par rapport à une autre, l'économiste doit regarder non pas le revenu par habitant, comme on ferait aujourd'hui, il doit regarder la densité de population. Ça, c'est une loi très lourde. On a eu tendance, parce qu'au XIXe siècle, beaucoup d'auteurs ont essayé de la discréditer, à l'ignorer. Aujourd'hui, grâce aux grands travaux des économistes historiens, je pense à Madison, Paul Bayrock, etc., qui ont fait un véritable travail de calcul du revenu par habitant dans l'histoire, en comparant dans le temps et dans l'espace cet index de revenu par habitant, eh bien, on se rend compte que sans doute cette loi était juste et qu'au premier ordre d'approximation, presque dans toute son histoire, l'humanité a vécu avec un revenu moyen de l'ordre de ce qu'aujourd'hui on associe à nos grands pauvres, un peu plus d'un dollar par jour, on dirait, ou un euro par jour, bon, peu importe ici la distinction, on dirait avec un revenu de 500 euros annuels. Voilà la marque de cette loi qu'on retrouve en effet dans toutes les données.
Alors justement, pour donner le ton de votre ouvrage, je rappelle ce que vous dites dès l'introduction. Le principal risque du XXIe siècle tient moins à la confrontation des cultures ou des religions qu'à celui d'une répétition au niveau planétaire de l'histoire de l'Occident lui-même. Et je ne résiste pas au plaisir de donner à notre passage où vous dites que les Japonais sont en comparaison des modèles absolus de propreté, les rues sont régulièrement lavées, on enlève ses chaussures avant d'entrer chez soi, ce qui explique qu'ils soient plus nombreux et plus pauvres, c'est le règne de la prospérité du vice. C'est pas le vice au sens de Sade, du
non,
terme.
Non, non, là, non, c'est le vice au sens de Malthus, en effet, qui faisait donc cette observation que plus une civilisation avait des qualités de gouvernement, d'hygiène publique élevée, et plus en réalité, le piège démographique était rapide, était dur, et donc en réalité, plus vite et plus profondément, il se retournait contre ces civilisations. Malthus était le fils d'un admirateur des Lumières qui pensait que tout le malheur de l'humanité tenait au fait que l'humanité était en général mal gouvernée, donc mettait tous ses espoirs dans un bon gouvernement. Et le fils Malthus, au fond, a essayé de démontrer exactement le contraire, à savoir que meilleur est le gouvernement, plus règne la paix, meilleure est l'hygiène publique et plus grave est la situation. C'est en effet le livre, d'ailleurs le titre, La prospérité du vice, vient de là.
C'est ça.
C'est le règne de la prospérité du vice, comme vous le rappeliez, c'est-à-dire une société où il y a des guerres, où on ne se lave pas, où il y a une hygiène publique catastrophique, mais en réalité est plus riche. Et beaucoup d'auteurs aujourd'hui pensent que le décollage de l'Occident doit beaucoup, enfin ce serait ridicule de tout mettre sur cet événement, mais en tout cas doit beaucoup à la peste bubonique du XIVe siècle, qui va créer un effondrement démographique et qui va renchérir le salaire ouvrier et qui va être sans doute propice à une évolution des techniques pour prendre justement en charge cette rareté de l'homme. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut prendre ce raisonnement, mais il y a des auteurs très récents, des articles écrits il y a encore un an, qui essayent de montrer cet enchaînement. Donc il y a bien ici, dans l'intuition malthusienne, certainement quelque chose de juste pour la période précédente à son œuvre.
Alors vous m'avez donc tendu la perche pour passer à la deuxième question, puisque en fait vous parlez tout à l'heure du triomphe entre guillemets de l'Occident. Qu'est-ce qui fait justement, c'est une des questions que vous abordez dans votre ouvrage, qu'est-ce qui fait qu'en fait l'Occident a bénéficié donc du monde moderne, alors qu'en parallèle d'autres empires comme la Chine ou l'Inde, la Chine particulièrement, n'ont pas su saisir ces opportunités, alors que ce sont elles, vous le rappelez dans votre ouvrage, qui ont eu des inventions déterminantes qui normalement sont liées avec le progrès et la croissance.
Oui, alors, il est certain que quand on regarde la situation de l'Europe et de la Chine au début du deuxième millénaire, l'avantage ne va évidemment pas à l'Europe, il va beaucoup plus certainement à la Chine. D'abord, si on regarde mon critère de la densité de population, ça ne fait pas de doute. La Chine est en avance. Et puis quand on regarde les trois grandes inventions dont Francis Bacon nous dit qu'elles sont le moteur du monde moderne, à savoir l'imprimerie, la boussole et la poudre, bien, ces trois inventions sont toutes les trois chinoises. Donc ça veut bien dire que la Chine était en avance sur l'Europe dans le domaine technique au XIIIe siècle. Alors pourquoi ça s'est passé en Europe et pas en Chine? Bon, ça c'est un sujet qui est évidemment très controversé par les économistes. Pour le dire très simplement, disons, il y a deux écoles. Une école qui est liée aux écrits d'un économiste récent qui s'appelle Kenneth Pomerantz et qui dit, au fond, la Chine a failli entrer dans le monde industriel au XIVe siècle, et elle en a été empêchée par un accident de l'histoire.
C'est votre thèse.
Enfin, moi, je suis un peu agnostique, mais disons, mais en mettant toutes les explications sur la table, on comprend mieux ce qui se passe. Donc, il dit, voilà, la Chine était au XIVe siècle au bord d'une révolution industrielle très proche de la nôtre, et ce qui s'est passé en Angleterre au XVIIIe siècle aurait très bien pu se passer au XIVe siècle. Ouais. On avait une révolution agricole, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, au XIVe siècle, les Chinois importent une variété de riz vietnamien beaucoup plus efficace parce qu'on peut faire deux récoltes par au lieu d'une seule, et du coup ça a donné une espèce de boom économique à ce moment-là, et on voit un enchaînement, le développement d'une urbanisation plus forte, le développement de la métallurgie, d'industrie textile, enfin on voit des choses très très proches de ce qui va s'observer en XVIIIe siècle. Et puis cet enchaînement qui aurait pu être vertueux, il a été cassé par l'invasion mongole qui casse cet essor démographique. Alors à partir de ce moment-là, il y a un peu deux écoles qui s'affrontent entre guillemets. Celle de Pomerantz qui dit que du coup, à cause de l'invasion mongole, le centre de gravité de la Chine va au sud et les réserves en charbon étant au nord, les élites du sud et du nord ne vont pas se croiser. Et donc, il ne va pas y avoir l'effet un peu cumulatif que l'économie du charbon va permettre de connaître dans l'Angleterre du 19e siècle. Une autre dit qu'à partir de cette invasion mongole, la Chine rentre un peu dans un univers d'immobilité.
L'hédonisme aussi, un petit peu.
Voilà. Ouais. Alors, l'empereur brûle les navires parce qu'il comprend qu'il faut surtout protéger. Et donc, là, c'est l'explication de David Landes. On rentre dans une explication un peu plus culturelle qui est que, bon, on n'ouvre plus les portes de l'innovation. Bon, bref, il y a eu un accident, un enchaînement politique qui a éloigné la Chine du destin européen. Alors maintenant, il y a une autre explication, je crois, peut-être non pas plus profonde, mais qui mérite d'être ajoutée, qui est de dire que Peut-être que la Chine aurait pu connaître au XIVe siècle le développement économique que l'Europe a connu au XVIIIe et au début du XIXe. Maintenant, ce développement économique de l'Europe à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, bon, qui est associé à un certain nombre de techniques, certaines assez primitives et encore une fois, auxquelles la Chine avait en toute hypothèse déjà accès au XIVe siècle. La machine à vapeur, ils n'étaient pas loin, les Chinois, d'avoir un peu l'équivalent de la machine de Watt. Les machines à tisser, ils auraient très bien pu le faire. Même dans le domaine de la métallurgie, les Chinois auraient parfaitement pu suivre la voie anglaise. Mais on rajoute à ce moment-là, et je crois que c'est très important, c'est que ce développement européen de la fin du XVIIIe et du début du XIXe, il se serait sans doute cassé si, à partir du milieu du XIXe siècle, n'avait pas pris le relais de ces innovations de départ, d'autres innovations, qui, elles, auraient été sans doute inconcevables sans la révolution scientifique du XVIIe siècle. C'est-à-dire que la machine à vapeur, c'est une chose, mais sans l'invention des lois de la thermodynamique, on n'aurait sans doute pas été très loin. Les premières expériences sur l'électricité auraient été très bien, mais sans le stimulus qu'a représenté toutes les découvertes qui ont été faites ensuite, et là encore, qui n'aurait sans doute pas été possible sans l'esprit scientifique du XVIIe siècle, ça ne se serait pas passé. Et donc, derrière, au-delà peut-être de conditions de départ qu'on aurait très bien pu trouver en Chine, mais qu'on a finalement trouvé en Europe, il y a sans doute quelque chose de beaucoup plus profond, c'est la révolution scientifique du XVIIe siècle, en tout cas pour comprendre ce qui se passe à partir du milieu du XIXe siècle. Et là, cette révolution scientifique du XVIIe siècle, c'est le miracle européen. Alors, je ne vais pas commenter des raisons pour lesquelles c'est en Europe que ça s'est passé plutôt qu'ailleurs. Il y a peut-être eu un hasard, peut-être qu'il y a eu un grand miracle qui s'est produit. D'ailleurs, Einstein lui-même dira « c'est miraculeux ce qui s'est passé ». À savoir cette rencontre entre, on va dire, des mathématiques pures qui viennent des Grecs et puis un monde des techniques qui sont plutôt développées en Chine. Il y a une rencontre entre la science fondamentale et ses applications curieuses. L'idée qu'on puisse, l'idée de Descartes, l'idée qu'on va retrouver ensuite, bien sûr, chez Galilée et Newton, qu'on puisse mathématiser le monde naturel, ça, c'est un miracle. Personne n'en avait eu l'idée véritablement auparavant. Ça, c'est le miracle qui se passe en Europe et qui va donner à l'Europe, voilà, au bout du compte, et en tout cas certainement à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, un avantage qu'on n'aurait sans doute pas trouvé en Chine si la révolution industrielle s'était produite en Chine au XIVe siècle.
Voilà, je crois que nos auditeurs auront tous eu et ont encore beaucoup à apprendre sur votre premier chapitre « Pourquoi l'Occident ?» en quelque sorte, « Pourquoi l'Occident ?» Deuxième chapitre, vous parlez de la prospérité et de la dépression. Et donc effectivement, il y a eu des grands moments, mais il y a eu aussi des moments extrêmement difficiles. Et dans cette deuxième partie, vous apportez un sujet qui est assez original et peut-être d'ailleurs central, la quête impossible du bonheur. Alors je ne résiste pas au plaisir de lire l'introduction. L'immense désespoir que la fin de l'âge d'or allait faire peser sur la société française éclaire un trait fondamental de la société moderne, son addiction à la croissance. Elle va plus loin que l'encouragement aux finances publiques. Elle touche le bonheur intime des individus. Alors le bonheur, c'est quelque chose de très relatif. Vous l'expliquez par rapport aux sociétés et par rapport aux individus. Alors, j'aimerais bien vous entendre sur ce plan, parce que c'est, à mon avis, central.
Voilà. Oui, non, mais c'est en effet tout à fait central. C'est au cœur de l'articulation du livre. Je parlais tout à l'heure de la loi de Malthus. L'humanité a vécu sans le savoir, depuis pratiquement la création du monde jusqu'au XVIIIe siècle, sous le coup d'une loi économique centrale, cette loi de Malthus, qui fait que la démographie empêche l'enrichissement des habitants. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, en Europe d'abord, et puis aujourd'hui avec la mondialisation un peu partout quand même, on découvre qu'il est possible que le taux de croissance déborde la démographie et fasse que le revenu par habitant augmente. Mais la question qui se pose dans nos sociétés, ça n'est pas le fait de la croissance, ça y est, on le voit et on le comprend, enfin on en comprend à peu près tous les ressorts, je crois, enfin dans une très large mesure. La question, c'est cette croissance du revenu par habitant, produit-elle une augmentation du bonheur par habitant? Et ça, c'est une question que, en fait, dès le départ, Adam Smith se pose, et quand il s'interroge sur le but de tout ça, pourquoi ce remue-ménage, dit-il. Et il répond: il n'y va pas dans la recherche de la richesse, de la recherche de notre confort et de nos aises, il y va, dit-il, de notre vanité. Car si nous faisons tout ça, en gros, pour aller vite, dit-il, c'est par le souci d'être regardé et considéré par les autres. Et le titre « La prospérité du vice » se retrouve ici, c'est notre vanité, dit-il, et non pas la recherche de nos aises. Et au fond, ça amène directement à cette question, parce que si c'est notre vanité, si tout ce que nous faisons ici-bas, c'est pour attirer le regard des autres, si on veut être riche simplement, en réalité, pour être plus riche que les autres, si on devait trivialiser ce raisonnement, alors il est bien évident que l'enrichissement, dès lors qu'elle est répartie à l'ensemble de la population, celle qui compte, celle qui est autour de nous, ben, ne nous rend pas plus heureux. Le bonheur est une notion, du coup, essentiellement relative et non pas absolue. Et du coup, le paradoxe central, c'est que peut-être qu'on a abandonné la loi de Malthus pour entrer sous le coup d'une loi qui nous est aussi difficile à comprendre à nous et à nos contemporains que la loi de Malthus pouvait l'être à l'époque où elle prévalait. D'ailleurs, on ne la comprenait pas en réalité dans ces termes-là. Et que ce faisant, oui, comme un écureuil dans une roue, ben, nous tournons, nous nous agitons, nous produisons tout ce remue-ménage, comme disait Adam Smith, dans une quête vaine du bonheur. Alors, les économistes ont longtemps ignoré ça, parce que pour eux, la preuve du bonheur, la preuve du pudding, hein, c'est quand on le mange, disent les Anglais. Donc, il y a tant de richesses que voilà, ça prouve qu'on est mieux aujourd'hui qu'hier. Et de fait, personne ne songerait à vouloir revenir en arrière. Mais cette découverte, disons, elle a eu de droit, même si beaucoup de gens en ont eu l'intuition, et d'ailleurs, quelqu'un comme Alfred Sauvy en avait eu l'intuition, il dit le bonheur, l'homme moderne est comme un marcheur qui n'atteint jamais l'horizon, il est toujours au même degré d'insatisfaction, quel que soit le niveau de richesse. Eh bien, la littérature économique la plus moderne s'est ressaisie de ça depuis une dizaine, quinzaine d'années, pas plus. Elle a pris très au sérieux ce programme de recherche et au fond, de plusieurs manières, elle arrive bien à ce constat que le bonheur est relatif, que les gens ne sont pas plus heureux aujourd'hui qu'ils étaient il y a 20 ou 30 ans. Alors évidemment, il y a des niveaux de pauvreté absolue, la question ne se pose pas, mais disons, dans des échelles de temps court, comme ceux d'une société comme la France, aujourd'hui et il y a 30 ou 40 ans, on ne peut pas dire qu'il y a eu un progrès. Et même, je vais un peu plus loin dans le livre, ce que vous citez, si on devait, au fond, comparer le bonheur des Français aujourd'hui à celui qui pouvait être atteint dans les années 50 et 60, je pense qu'intuitivement, c'est ce qu'on confirme les indications qu'on a, mais je pense qu'on peut entendre intuitivement que certainement les Français étaient plus heureux au début des années 60 qu'ils ne sont aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que dans les années 60, alors même qu'on était trois fois plus pauvres qu'on est aujourd'hui, le taux de croissance était beaucoup plus élevé. Et en réalité, ce qui compte pour le bonheur, ça n'est pas le niveau de richesse, c'est le taux de croissance, c'est l'enrichissement. On veut être plus riche qu'on était, plus riche que les autres, mais
plus riche que son voisin, que son beau-frère.
Plus riche que l'idée qu'on s'est conçue de la richesse, quelle que soit la manière dont cette idée est conçue. Et ça, c'est le taux de croissance qui rend heureux. Et une statistique dont on n'a pas toujours conscience, mais que je trouve tout à fait extraordinaire, c'est que quand on regarde aujourd'hui le revenu médian d'un Français, médian, c'est-à-dire en laissant de côté la question des inégalités, en se mettant vraiment au milieu de la distribution de revenus. Eh bien, bon, chacun sait, enfin, j'espère qu'on a en tête les ordres de grandeur, c'est aujourd'hui environ 1500 euros par mois net, qui est le revenu d'un salarié qui est au milieu de la distribution de revenus. Eh bien, en 1970, le niveau correspondant était deux fois inférieur. Entre 1970 et aujourd'hui, le niveau a doublé. Mais on ne s'en rend pas compte. On a l'impression qu'avec 1500 euros, on ne peut pas vivre. C'est impossible de vivre. Et pourtant, on a doublé par rapport au niveau de départ. Donc, comprendre ce phénomène social en profondeur, je pense que c'est essentiel pour savoir où vont nos sociétés industrielles.
C'est de la même façon précieux pour l'économiste qui doit toujours avoir en tête que l'économie, ce ne sont pas uniquement les faits, mais la perception des faits.
Mais bien sûr, c'est exactement ça.
On est tout à fait d'accord. Alors, voilà, je crois qu'on pourrait vous écouter encore très très longtemps, mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser une autre question, puisque justement, à travers le bonheur, je vais penser à la Chine, puisque l'économie socialiste de marché, c'est une énigme. Cette association de collectivistes plus donc les théories de l'économie de marché. On s'interroge sur la capacité pour ce pays à résister à ces tensions internes. Est-ce que vous ne pensez pas justement que l'idée que les Chinois se font du bonheur est précisément la perception du bonheur, c'est-à-dire d'une croissance importante qui pourrait être remise en question, n'est pas une des clés de réponse à cette ou non stabilité de ce pays. Ouais. En quelques mots, parce qu'effectivement,
pour le dire très vite, et d'ailleurs en enchaînant sur le raisonnement précédent, la grande fragilité de nos sociétés industrielles, qui va devenir la fragilité de la Chine un jour ou l'autre, qui a failli l'être d'ailleurs l'année dernière, c'est que si nous ne sommes heureux qu'à proportion du taux de croissance et non pas du niveau de richesse, alors bien sûr, les nations pauvres peuvent croître très rapidement puisqu'elles ont beaucoup de chemin à parcourir pour tout simplement retrouver la frontière des richesses qui sont ceux des grands pays industrialisés. Mais la grande faiblesse des sociétés industrialisées, c'est que tout va bien quand la croissance est très forte, mais quand la croissance ralentit, a fortiori quand elle devient négative, en tout cas quand elle stagne, tout va mal. Parce que On est très heureux quand la croissance est très forte. Et là, je reprends un raisonnement dans le livre que je prends du grand économiste et philosophe Albert Hirschman, que je trouve très profond sur ces questions. Il dit, quand la croissance est très forte, alors on peut réfléchir à la manière de créer un monde juste. On peut créer une société, on va dire, solidaire, une société où les actions publiques sont possibles, puisqu'on est riche, il y a un surplus, on peut le partager. On peut construire, comme on l'a fait nous-mêmes dans les années 50 et 60, la sécurité sociale, puisqu'il y a un surplus qu'on peut redistribuer. Il met aussi en garde, on peut aussi nourrir les ambitions bellicistes des dirigeants. On est riche, il y a un surplus, on peut construire une armée. C'est pour ça que la croissance, d'ailleurs, ne signe absolument pas la paix. Dans le cas de l'Allemagne du Kaiser, la croissance a permis à l'Allemagne de nourrir ses ambitions. Elle était la grande puissance industrielle, elle a voulu devenir la grande puissance tout court. Donc attention à l'idée que la croissance soit un signe de paix, non. Enfin bon, c'est le signe d'une société réconciliée avec elle-même, en tout cas jusqu'à un certain point. En revanche, dans les périodes de récession, c'est-à-dire les moments de crise, les moments où on a besoin de solidarité, alors Hirschman le dit, c'est à ce moment-là que ça ne se produit pas. Parce que quel que soit le point de départ, une société en faible croissance et encore une fois, a fortiori en période de récession, se croit pauvre, se sent pauvre. Et donc, la fragilité des sociétés industrielles, en réalité, c'est qu'elle produit de la solidarité, mais quand on n'en a pas besoin. Elle en produit quand tout va bien, il y a un surplus qu'on peut partager. Quand tout va mal, quel que soit le niveau de richesse, la société peut se disloquer. C'est ce qui s'est passé dans la même Allemagne dans les années 30, au moment où la récession a frappé. Ça a été chacun pour soi, la société s'est délitée, elle a été obligée de trouver d'autres manières de se reconstituer comme société. Évidemment, ça a été la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Donc, tout ça pour dire, attention, tous ceux qui pensent que la prospérité, l'enrichissement du monde, de toutes ces nations émergentes, nous amènera à un idéal de paix, c'est un peu répéter l'erreur des Lumières au XVIIIe siècle, un peu par anticipation, Malthus a dénoncé, et qu'on peut reprendre avec cette nouvelle loi de Malthus qui nous frappe. Attention, ça ne s'est pas passé comme ça en Europe. La richesse du 19e siècle n'a pas produit la paix au 20e siècle, c'est le moins qu'on puisse dire, et en vertu des mécanismes au fond que je viens très rapidement d'esquisser. Attention de ne pas commettre la même erreur aujourd'hui à l'orée de la mondialisation, de faire la même erreur de raisonnement. La richesse en tant que telle n'est pas un facteur de paix, il faut d'autres choses pour pacifier une société. Dans le cas de l'Europe, de l'Occident, c'est la guerre elle-même qui nous a pacifiés, donc il faut espérer que l'humanité au 21e siècle trouvera d'autres voies que celles que l'Europe elle-même a choisies.
Et que la Chine, notamment, n'empruntera pas ce chemin. Alors, vous terminez à l'heure de la mondialisation par une grande fresque, etc. Vous parlez notamment de la nouvelle économie dans le cybermonde. Qu'est-ce qu'apporte comme nuance cette arrivée dans le cybermonde en un mot avant que l'on conclue.
En un mot, le cyber.
En une phrase, plus exactement.
Quand même. Disons, pour le dire très simplement, cette croissance, ce modèle de croissance, on voit qu'à l'échelle du monde, il trouve ses limites dans la contrainte écologique. Et l'un des paradoxes du monde dans lequel on entre aujourd'hui, c'est à l'heure où les grandes nations, les grandes civilisations, l'Inde et la Chine, nous rejoignent dans l'idée qu'une croissance perpétuelle est possible, eh bien, ce faisant, ils nous ramènent peut-être au monde antérieur, celui de Malthus, c'est-à-dire celui d'un monde trop exigu pour soutenir cette croissance. La grande révolution scientifique du XVIIe siècle, c'était le passage de l'idée d'un monde clos à celle d'un univers infini, c'est la formule d'Alexandre Coiré. Eh bien, au moment où, au fond, toutes les civilisations du monde finissent par adhérer à cette idée, eh bien, il faut d'une certaine façon faire le chemin paradoxal inverse, revenir à l'idée d'un monde clos. Ça n'est pas de bon augure si en effet nos sociétés sont avides de croissance comme elles ont démontré qu'elles l'étaient jusqu'à présent. Alors le cybermonde, c'est une nouvelle frontière où la recherche d'un infini reste possible puisque au fond là il n'y a pas de limite. Plus il y a de gens qui sont connectés à Internet, mieux c'est, il n'y a pas d'encombrement. Donc voilà, c'est peut-être la voie étroite où la société mondialisée pourra migrer pour éviter cet encombrement annoncé de la planète. C'est en ce sens que le cybermonde, effectivement, je l'interprète, peut-être en exagérant un peu, comme une deuxième migration, une grande première des sociétés rurales vers des sociétés urbaines. La deuxième grande migration, c'est d'une société urbaine à une société cybernétique dans laquelle, voilà, dans un nouvel espace, l'humanité va migrer, sans trop d'espoir sur la moralité de ce nouvel espace. C'est pas, il ne va pas être bon et gentil quand l'ancien était méchant et odieux. Non, il a ses vices lui aussi. D'ailleurs, en particulier, le vice que désigne Adam Smith. Chacun veut y être reconnu et considéré, donc l'histoire humaine continue, mais peut-être d'une manière qui est compatible avec l'exiguïté de la planète.
Je termine en vous citant, parce que cette page est absolument délicieuse, c'est votre conclusion d'ailleurs, au moment où elle est tentée de s'évader dans le cybermonde, L'humanité doit accomplir un effort cognitif aussi immense que celui qui fut réalisé lors de la révolution néolithique ou de la révolution industrielle pour apprendre à vivre dans les limites d'une planète solitaire. C'est très bien écrit. Bravo. Daniel Cohen, merci. Nous n'avons bien entendu pas tout exploré. Il faut laisser un petit peu d'appétit à nos auditeurs. Je rappelle votre ouvrage, La prospérité du vice, une introduction inquiète à l'économie chez Albin Michel, qui est déjà un grand succès de librairie. Merci à vous, Daniel.
Merci.